peut reprendre avec la même attention. Et on va accueillir le professeur Dubois qui va me rejoindre sur cette scène parce qu'il a plein de chouettes choses à vous annoncer sur l'actualité de la recherche. N'est-ce pas, professeur Dubois ? Bienvenue.
Merci, merci beaucoup. Merci de votre accueil à tous. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être resté après la pause. On va parler effectivement de choses un peu positives tout en étant, vous allez voir, assez prudent quand même dans les annonces. On va faire le point sur les actualités. Ce que je voudrais surtout faire, si vous voulez, c'est reprendre un peu tout ce qui a été dit et remettre ce qui nous a été dit tout à l'heure un peu en perspective. Et vous allez voir une certaine cohérence, je pense, une certaine cohérence par rapport à l'avenir. Et je crois que nous sommes maintenant en marche pour pouvoir, dans un avenir relativement proche, pouvoir bénéficier des avancées de la recherche clinique dans cette maladie. On va parler de la recherche clinique, et je crois que c'est spécifique à cette maladie d'Alzheimer. La solution ne sera pas, probablement, ne viendra pas des modèles animaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de recherches fondamentales qui sont faites sur des modèles animaux. On fait des souris Alzheimer, on leur fait des greffes de chromosomes, etc. On fait des modèles très complexes. Il y a des drosophiles, des mouches, qui sont soi-disant des modèles de maladie d'Alzheimer. Il y a des petits vers, des versets élégances, dont on dit que c'est un modèle merveilleux de maladie d'Alzheimer. J'y crois pas du tout. Pour moi, le meilleur modèle de maladie d'Alzheimer, c'est ce que c'est ? C'est le patient. Le patient qui a la maladie d'Alzheimer, car aujourd'hui, je vais vous le montrer, on peut analyser la maladie d'Alzheimer directement chez le patient. Et on est en train de progresser de façon considérable dans la connaissance de cette maladie, en 10 ans, beaucoup plus qu'on l'a fait au cours du siècle dernier. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que depuis 1905 ou 6, date à laquelle il y a eu la publication par Alois Alzheimer de la maladie qui porte son nom, à partir de l'observation de cette patiente, et cette photo, vous la connaissez peut-être, est historique. Voilà la fameuse patiente Auguste D, la photo ayant été prise par Alois Alzheimer lui-même. Donc c'est cette rencontre entre cet homme et cette femme qui est à l'origine de la description, et ça, ce document est historique, puisque c'est le document, c'est l'observation initiale que Alois Alzheimer a prise de cette femme quand elle est arrivée dans son service. Eh bien, ça nous a été rappelé, il publie donc en 1906 une observation très précise concernant cette patiente en décrivant tous les symptômes qu'elle présente, et il rapporte dans son cerveau les deux lésions de la maladie, les lésions amyloïdes, ça nous a été dit, et cette modification ici de ce neurone, vous voyez, qui est en flamèche, et cette modification de la structure du neurone est liée à ce qu'on appelle une pathologie de les protéines tau qui constituent le squelette de ces neurones. Voilà, donc il rapporte ces deux observations, tout est là, les troubles et les lésions. Eh bien, je dirais, pour aller vite, que depuis 1906, oui, peu de choses ont été découvertes dans la maladie, et c'est finalement, vous voyez, ça nous a été rappelé, on ne savait pas faire le diagnostic de cette maladie de façon formelle, et c'est finalement l'IRM qui va commencer à nous faire progresser, l'IRM chez les patients, ça a été rappelé tout à l'heure par le docteur Chardin. Eh bien, vous voyez, on a pu faire, à ce moment-là, grâce à l'IRM, des coupes perpendiculaires au grand axe de l'hippocampe. Là, vous avez l'hippocampe est ici. On a fait des coupes coronales et on s'est rendu compte que l'on pouvait étudier, et ça nous a été montré tout à l'heure, étudier cette petite région ovoïde, comme un petit ballon de rugby, vous voyez, qui est l'hippocampe. Et on a pu, comme ça, mesurer, s'intéresser au volume de l'hippocampe. Et je dirais que c'était la première grande étape dans l'histoire de la connaissance de la maladie d'Alzheimer qui a été faite chez les patients. C'est en étudiant les patients qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une atrophie de l'hippocampe. Cette atrophie de l'hippocampe, on a pu la mesurer avec un de mes collègues qui s'appelle Stéphane Lehérissi, qui est un neuroradiologue tout à fait émérite de la Salpêtrière. Et c'est un travail qu'il a fait, on a fait ensemble. Il a contourné, vous voyez, l'hippocampe des patients. À l'époque, ça se faisait à la main. Maintenant, ça se fait de façon automatique, c'est tout à fait banal. Mais l'intérêt qui vient de ce travail qu'il a fait avec moi donc et qu'on a publié en 1996, c'est de montrer qu'il y avait déjà une atrophie de l'hippocampe de 25% chez des patients qui étaient au début de la maladie, puisque c'est des patients qui avaient un MMS moyen de 24. Le MMS étant une sorte de thermomètre, si vous voulez, du fonctionnement cognitif. Nous avons tous à peu près un score de 30 ici dans la salle, ou de 29. Quand on est à 24, on a déjà une petite baisse, mais c'est débutant. Donc on montrait qu'il y avait déjà une atrophie de l'hippocampe chez des patients au tout début de la maladie. Et c'est à l'origine de l'idée que l'hippocampe était peut-être une structure fondamentale dans l'histoire de la maladie. Et effectivement, il y avait un autre chercheur qui s'appelle Brack, qui est un Allemand, qui avait montré avec son épouse que, à partir de l'observation du cerveau de patients atteints de maladie d'Alzheimer, il y avait déjà un intéressement, une atrophie de l'hippocampe, des lésions histologiques dans l'hippocampe des patients qui étaient décédés de la maladie au tout début de leur maladie. Donc, si vous voulez, la convergence de ces deux informations, à la fois la présence de lésions très précoces au niveau de l'hippocampe et le fait qu'on ait trouvé une atrophie précoce de l'hippocampe chez des patients au début de la maladie, validait l'idée que la maladie débutait par l'hippocampe et que les troubles de mémoire dont on nous a parlé tout à l'heure étaient probablement liés à l'atteinte de cet hippocampe. Et c'est là que nous avons créé le concept de syndrome amnésique de type hippocampique que le docteur Chardin a rappelé, le concept de syndrome amnésique de type hippocampique avec des particularités que nous avions décrites. L'intérêt de cela, c'est que ça permettait d'isoler une phase, je dirais, prédémentielle, une phase précoce, une phase prodromale, ça a été dit, une phase de prodrome, qui se caractérise par un syndrome amnésique spécifique, particulier, hippocampique, qui est lié à l'atteinte première de cette région-là. Et puis après, il y a secondairement une expansion des lésions à l'ensemble des zones néocorticales qui va être responsable d'une aggravation progressive des troubles avec l'apparition de troubles du jugement, d'une apathie, ça nous a été dit tout à l'heure par le docteur de la Doucette, des troubles du langage, ça a été souligné effectivement également, des troubles des praxies, des troubles de la reconnaissance des visages, des troubles du comportement, du caractère, qui vont peu à peu retentir sur l'autonomie du patient. Et c'est le retentissement sur l'autonomie qui détermine en médecine la notion de démence. Nous, médecins, nous appelons, c'est un terme malheureux, mais c'est comme ça, on dit que quelqu'un est au stade de démence quand il a perdu son autonomie. Mais on perd assez vite son autonomie si on n'est plus capable de se déplacer soi-même, si on n'est plus capable de s'occuper de ses affaires personnelles, si on n'est plus capable de prendre ses médicaments. Eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où on a besoin d'être aidé dans les activités de la vie quotidienne, ce qui détermine ce stade-là. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, je vous demande de garder cette idée, c'est que depuis une quinzaine d'années, on a progressé, puisque à côté du stade de démence qui était celui décrit par Alzheimer, nous avons introduit un nouveau stade, qui est le stade prodromal, c'est-à-dire ce stade précoce, je dirais, de gens qui ont déjà des symptômes, mais qui sont limités à des troubles de la mémoire essentiellement, et qui n'ont pas encore retenti sur leur autonomie. Donc ça ouvre complètement, vous allez voir, l'idée qu'on se fait de cette maladie. Ce n'est plus une maladie gravissime, c'est une maladie qui va évoluer doucement au début avec des troubles de mémoire relativement isolés pendant de nombreuses années. Moi, je suis des patients pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans qui ont ce stade prodromal avant qu'on observe une perte d'autonomie. Alors, je reprends, vous voyez, je fais un peu la synthèse de ce qui nous a été dit jusque-là. La deuxième information absolument essentielle, après, donc, je dirais, le focus sur l'hippocampe, c'est que l'on peut voir maintenant les lésions dans le cerveau, comme ça nous a été rappelé. Alors, ces lésions, vous voyez, on les voit, ce sont les lésions de type Alzheimer. Là, vous avez ici un gradient de lecture. Quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. Il y a beaucoup de lésions. Et vous voyez là, ici, un patient atteint de AD, Alzheimer disease, atteint de maladie d'Alzheimer, c'est rouge partout, il a des lésions plein son cerveau. Je passe rapidement, ça nous a été dit. Maintenant, on peut voir les lésions de tout type, on peut même les mesurer dans le liquide céphalo-rachidien. Merci de m'avoir permis d'aller vite sur ces diapositives. On peut maintenant le mesurer dans le liquide céphalo-rachidien, et peut-être même dans le sang. Sachez que nous sommes à la Salpêtrière en train de travailler sur ces dosages sanguins. Vous avez eu raison de dire que ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Je suis d'accord avec vous. Ça reste encore tout à fait expérimental. Ça reste encore de la recherche. Mais, vous voyez, par exemple, ce résultat, même s'il est probablement à confirmer, certainement à confirmer, vous voyez, il y a un seuil de la concentration d'une protéine, qui est la protéine phosphoto, qu'on a étudiée dans deux groupes de patients, un groupe de patients atteints de maladie d'Alzheimer et un groupe de patients atteints d'une maladie neurodégénérative qui n'était pas liée à la maladie d'Alzheimer sur la base du liquide céphalo-rachidien. Et nous avons eu la chance, je dirais, d'avoir un seuil qui permettait de séparer les deux populations. Je dis bien la chance parce que c'est un petit effectif et il est probable que ce résultat est très heureux, mais qu'il va falloir malheureusement le confirmer sur un plus grand nombre et qu'on n'aura pas une séparation aussi nette. Tout ça pour vous dire que dans l'avenir, on aura probablement la possibilité d'avoir des marqueurs sanguins qui seront en faveur de la maladie, mais pour autant, leur fiabilité ne sera probablement pas absolue. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ces recherches. Ce sont des recherches et qui ne sont pas encore utilisables dans la pratique clinique. Donc, retenez simplement le titre de cette diapo. La découverte des biomarqueurs change la donne. La découverte des biomarqueurs change la donne, et je vais vous montrer pourquoi elle change la donne. Elle change la donne, premièrement, parce que ça permet maintenant de mesurer l'efficacité des médicaments. Et c'est là, je dirais, la partie la plus intéressante de mon exposé, c'est de vous dire en quoi ces progrès qu'on a fait à partir de l'observation des patients, à partir de la recherche clinique, en quoi ça va dynamiser complètement la recherche que nous faisons sur ces patients et notamment la recherche thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'on peut maintenant mesurer l'efficacité des médicaments sur les lésions cérébrales, puisqu'on peut mesurer les lésions cérébrales. Et vous avez par exemple ici, vous voyez, des sujets qui ont été traités avec des médicaments que nous avons actuellement à notre disposition. Nous étudions ces médicaments à la Salpêtrière. Et vous avez là, si vous voulez, l'évolution de la concentration des lésions. Là, c'est à 100 le plus haut et à 0 le plus bas. L'évolution des lésions cérébrales de ces patients lorsqu'ils sont traités par les trois médicaments qui sont actuellement à l'étude, l'aducanumab, le lecanemab et le donanemab. Et vous voyez qu'après 6 mois, 12 mois et 18 mois, qui est la durée totale de ces essais thérapeutiques, on observe quoi ? On observe un nettoyage des lésions amyloïdes dans le cerveau des patients. C'est-à-dire que les patients, une fois qu'ils sont traités, ils n'ont pratiquement plus de lésions dans leur cerveau. Donc c'est un résultat considérable que vous ne connaissiez pas. Vous voyez, je vous apprends que nous avons aujourd'hui des médicaments qui nettoient les lésions cérébrales. C'est un résultat considérable. Sauf que, ces mêmes médicaments n'améliorent pas de façon significative les symptômes. En gros, on soigne les lésions, mais on ne soigne pas les symptômes. Or, on est bien d'accord que ce qui est important, ce n'est pas de nettoyer des lésions, c'est de traiter les symptômes des patients. Pourquoi ça n'est pas efficace sur les symptômes ? Probablement, et c'est l'hypothèse que l'on a faite, probablement parce que ces médicaments sont essayés trop tardivement chez des patients qui sont déjà au stade de démence. Et c'est vrai que le critère d'inclusion dans ces études était que les patients devaient être déments. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il y a la possibilité maintenant, grâce aux biomarqueurs, d'isoler des patients avant ce stade de démence. Donc peut-être qu'il faut étudier ces médicaments avant qu'il y ait trop de lésions dans le cerveau pour espérer avoir un éventuel effet. Et c'est ce que les médecins ont fait, c'est ce que les chercheurs ont fait. Donc actuellement, on est en train d'étudier l'effet de ces médicaments dans des formes relativement précoces. Démence légère, peut-être même forme prodromale, vous avez compris, la forme prédémentielle. Et avec l'aducanumab, il y a 2 ans, 1 an et demi, pour la première fois, on a montré que non seulement on a un effet sur les lésions. Vous voyez que là, à 10 mg, on a beaucoup moins de lésions dans le cerveau. Mais pour la première fois, on commence à avoir un effet aussi sur les symptômes, puisque vous voyez que par rapport au groupe placebo qui est en noir, eh bien, à partir d'un certain moment, il y a un décrochage qui est significatif et les symptômes s'améliorent dans le groupe de patients traités par le médicament. Donc, vous voyez, on progresse. On a maintenant non seulement des médicaments qui sont actifs sur les lésions, mais qui commencent à avoir un effet sur les symptômes. Et il y a un mois, un peu plus d'un mois, je crois que c'est le 25 septembre, a été publié les résultats, je n'ai pas la diapositive, d'un autre médicament qui s'appelle le lecanemab, celui qui est ici, voilà, en bleu, et le laboratoire qui développe le lecanemab, qui est le laboratoire Eisai, vient de rapporter qu'eux aussi, ils ont maintenant un effet sur des formes précoces de maladie d'Alzheimer, un effet symptomatique, donc sur les symptômes. Donc, vous voyez, il y a deux médicaments qui montrent non seulement un effet sur les lésions, mais ça y est, un effet sur les symptômes. Donc, les choses bougent. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres, dans la mesure où il va falloir évaluer ce qu'on appelle la pertinence clinique de ce résultat. L'effet est modeste. Mais pour moi, il est quand même très important. Même s'il est modeste, il est important parce que, vous voyez, il valide ce qu'on appelle le modèle qui sous-tend aujourd'hui la recherche dans la maladie d'Alzheimer, c'est le modèle de la cascade amyloïde. L'idée étant qu'on a au départ des lésions amyloïdes, la survenue des lésions amyloïdes dans le cerveau active les lésions tau qui sont déjà présentes, entraîne une sorte d'embrasement cérébral des lésions tau qui entraîne la mort neuronale et qui entraîne les troubles cognitifs. Eh bien, ce modèle, qui est ce modèle sur lequel on travaillait depuis 25 ans, ce modèle dont on disait qu'il était stupide, puisqu'on n'avait jamais montré une amélioration sur les symptômes, ce modèle est peut-être en train d'être validé et conforté, puisque on traite les lésions amyloïdes avec ces médicaments dont je viens de vous parler. On observe dans le liquide céphalorachidien une diminution de la concentration de la protéine tau. Et ça, c'est un résultat inattendu, mais extrêmement important. Ça veut dire que quand on joue sur une protéine, on observe un effet sur l'autre protéine. Je vous ai dit qu'il y en avait deux au départ qui étaient malades, qui étaient pathologiques dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, en traitant celle-là, on améliore aussi celle-là. Et on améliore les troubles cognitifs discrètement, mais on les améliore. Donc ça veut dire que l'ensemble de la chaîne est en train d'être conforté par ces résultats thérapeutiques. Donc c'est un modèle qui, je pense, est en train de fonctionner. Alors, le résultat n'est pas monstrueux, mais il est intéressant. Pour moi, si vous voulez, on est en train de dérouler la pelote de laine. On commence, voilà, on a l'amorce d'un effet. Ça devient intéressant, il faut continuer et on va le dérouler probablement assez loin. Une façon aussi de le dérouler, et si vous m'avez bien suivi, vous allez comprendre l'importance que cela a, ces biomarqueurs. Quand je vous ai dit, ça permettait de, premièrement, suivre les effets thérapeutiques. Deuxièmement, ça permet de repérer des sujets qui sont encore normaux, mais qui ont déjà les lésions. Ça nous a été dit tout à l'heure. Et sachez qu'il y a des modèles, notamment le modèle génétique, qui montrent qu'on a des changements dans ces biomarqueurs, ces fameux biomarqueurs dont on a parlé, avant la survenue des symptômes. Et longtemps avant, puisque à partir des modèles que nous avons actuellement, on considère que c'est 10 à 15 ans avant que les lésions sont déjà présentes chez des sujets normaux. Par exemple, moi qui vous parle, j'ai peut-être les lésions de la maladie d'Alzheimer dans mon cerveau sans en avoir encore les symptômes. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit, si on a des médicaments qui agissent sur les lésions, si peut-être ces médicaments ne sont pas très actifs quand on a déjà les symptômes parce que les lésions sont trop importantes, peut-être qu'il faudrait à ce moment-là les utiliser chez des sujets âgés, normaux, qui sont biomarqueurs positifs, mais qui n'ont pas encore peut-être développé la maladie, pour retarder l'entrée dans la maladie en nettoyant les lésions cérébrales. Vous voyez l'actualité passionnante de cette maladie. Pourquoi c'est passionnant ? Parce que, vous voyez, donc, on est dans cette idée qu'il y a trois phases maintenant. Au départ, c'est ce qu'on vous a dit au départ, il y a la phase de démence. Moi, je vous ai parlé, je vous l'ai dit, on a finalement décrit une nouvelle phase, une phase prédémentielle. Ce sont des sujets malades, ils ont des symptômes, ils sont au stade prodromal, mais ils sont symptomatiques. Et je vous dis, je viens de vous montrer, qu'il y a peut-être aussi, et il y a certainement, une phase préclinique, c'est-à-dire une phase avant les symptômes, où il y a malgré tout des biomarqueurs qui sont présents. Et ce qui réunit finalement ces trois états, et ce qui les raccroche à la maladie d'Alzheimer, c'est le fait qu'il y a des biomarqueurs positifs. Donc vous avez des sujets malades qui sont biomarqueurs positifs, ça permet d'avoir le diagnostic, vous avez des sujets normaux qui sont biomarqueurs positifs. La question, c'est ont-ils la maladie ? Et ça, c'est une vraie question scientifique. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être biomarqueur positif et d'être normal, par exemple, moi, par exemple, si je suis positif, si j'ai les biomarqueurs de liquide dans le liquide céphalo-rachidien ou dans mon cerveau, est-ce que pour autant je vais formellement développer la maladie ? Et c'est ça la grande question. Parce que si c'est le cas, eh bien, il suffira de faire ce petit prélèvement sanguin et on pourra traiter les gens. Et peut-être, et c'est peut-être ça la solution, et on va empêcher que la maladie se développe. Donc c'est peut-être un coup génial. Sauf que si, en revanche, les gens qui sont biomarqueurs positifs ne développent pas tous la maladie, c'est criminel de traiter des gens avec des médicaments potentiellement dangereux pour une maladie qu'ils n'auront peut-être jamais. Et il y a effectivement quelques données qui nous invitent à être un tout petit peu attentifs. Vous avez ici une slide qui m'a été donnée par une équipe australienne amie et qui a suivi pendant 6 ans des sujets âgés, normaux. Simplement, ils voulaient voir comment ils évoluaient et notamment comment évoluait leur concentration de lésions amyloïdes. Là, vous avez ici une femme de 73 ans qui, dont le seuil de lésion est tout à fait au-dessous du seuil de positivité, puisque le seuil de positivité est à 1,6, elle est à 1,3, elle n'a pas de lésion amyloïde dans son cerveau. C'est une dame de 73 ans, elle est suivie, c'est une dame âgée, normale, 29, le MMS, vous êtes au courant maintenant du seuil de MMS, 29, 30, tout va bien. Et puis là, vous avez un autre sujet qui, là, vous voyez, et maintenant, ça n'a plus de secret pour vous, il est très au-dessus du seuil d'1,6, il a des lésions amyloïdes plein le cerveau, vous voyez, et même qui s'aggravent au cours des 6 années de suivi, puisque là, il est beaucoup plus intense qu'ici, vous voyez, il y a du rouge ici, hein, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est 29, 29, 29, 30, 29, donc c'est-à-dire que, vous voyez, il a des lésions, il a beaucoup de lésions amyloïdes, les lésions évoluent dans le cerveau, et il reste absolument normal. Donc ce patient, il ne faut peut-être pas forcément le traiter. Et nous nous sommes intéressés à cette problématique, et avec le soutien de la Fondation pour recherche sur Alzheimer, on a suivi une cohorte tout à fait exceptionnelle de 320 sujets âgés, normaux, cognitivement normaux, qui ont joué le jeu et qui nous ont dit « D'accord, eh bien, vous allez mesurer si on a des lésions dans le cerveau et vous allez nous suivre pendant, on les a suivis pendant 7 ans. Voilà. » Et ce sont ces sujets que je vais vous montrer. Voilà, 7 ans après, sur les 88 sujets qui étaient biomarqueurs positifs, moi par exemple, oui, eh bien, sur les 88 sujets, après 7 ans d'évolution, seuls 16, alors qu'ils ont 83 ans en moyenne, seuls 16 évoluent vers une maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas considérer systématiquement que le fait d'être cognitivement normal, biomarqueur positif, veut dire qu'on aura la maladie d'Alzheimer. Et pourquoi ? Eh bien parce que vous avez des phénomènes de compensation dans le cerveau. Le cerveau est capable de réagir aux lésions cérébrales et de maintenir une fonction alors même qu'il y a des altérations de la structure. Et on a mis en évidence, grâce à cette étude, en mesurant l'activité électrique grâce à un électroencéphalogramme régulier, vous avez ici l'électroencéphalogramme moyenné des 250 sujets qui étaient amyloïdes négatifs. Première année, deuxième année, troisième année. Et là, vous avez l'activité électrique des sujets qui sont amyloïdes positifs, mais qui sont restés stables D'accord ? C'est-à-dire, je vous ai expliqué, il y en avait 88 moins 16, il y en a 72 qui sont amyloïdes positifs et qui sont restés stables. Eh bien, ils sont restés stables, mais sur le plan électrique, ils ont modifié leur activité électrique corticale et on voit l'apparition d'une augmentation de l'activité alpha dans les régions frontales, comme si finalement il y avait des modifications du cerveau qui permettaient de maintenir la fonction cérébrale alors même, puisqu'ils sont cognitivement normaux, ils sont stables, alors même qu'ils sont amyloïdes positifs. D'où cette idée que l'on a introduit, concept de résilience cérébrale. Le cerveau est capable de résister contre l'effet des lésions de la maladie. Donc, je passe là-dessus. Donc, je pense que, pour terminer, l'avenir, si on a raison, si ces médicaments confirment qu'ils sont efficaces, à la fois chez les patients, mais aussi chez des sujets normaux, dans leur capacité à retarder l'entrée dans la maladie. C'est de la science-fiction, on ne l'a pas encore démontré. Mais je fais le pari qu'on va le démontrer. Je fais le pari qu'à partir du moment où ces médicaments nettoient les lésions cérébrales, on arrivera, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir faire l'étude, et ça va être une grosse étude qui va coûter très cher, mais on arrivera à montrer qu'à ce moment-là, si on isole des patients, des sujets âgés, normaux, qui acceptent de le faire, mais moi, je serai le premier à le faire. Si je suis biomarqueur positif, j'irai. Je peux dire j'irai dans cette étude. Parce que j'y crois. Et si on arrive à montrer qu'on retarde, on nettoie les lésions cérébrales, eh bien, je pense qu'effectivement, c'est l'avenir et que ces médicaments, ça sera ce que vous aviez dit, madame, à l'entrée de votre slide, hein, la première slide, je pense que ça sera la vraie prévention, ça sera de traiter les sujets à risque avec ces médicaments. Donc, il va falloir que l'on crée des centres de prévention du vieillissement cognitif et je pense qu'on va créer, moi, ce que j'appelle des cliniques de risque, car nos structures, votre structure et votre activité qui vise aujourd'hui principalement à diagnostiquer des malades vont continuer à faire du diagnostic de malades, mais auront probablement dans l'avenir une autre responsabilité qui va être de repérer des gens à risque sur la base d'algorithmes qu'il va falloir déterminer pour pouvoir peut-être sélectionner ces gens qu'il faudra traiter alors qu'ils sont encore normaux, dans cette perspective de prévention dont je viens de parler. Donc, je passe rapidement là-dessus, les traitements arrivent, voilà. Donc, clinique du risque, il va falloir se lancer dans le repérage des sujets à risque. On a des outils sur lesquels on travaille, d'ailleurs, avec la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, qui s'appelle l'outil Santé-Cerveau, qui est un petit outil digital qui permet de repérer des gens qui sont à risque, qui ont des petits troubles cognitifs. Et ça sera très utile pour les médecins généralistes. On va développer cette application. On a déjà validé cette application par rapport au bilan neuropsy réalisé dans nos centres. Donc, ce sont des outils qui vont être très popularisé bientôt. On est en train d'écrire l'article qu'on va bientôt publier. Il y aura peut-être les dosages sanguins, on l'a dit. Détermination du risque sur à partir d'algorithmes prédictifs qui tiendront compte des facteurs de risque, des marqueurs, des biomarqueurs, du mode de vie, du score de risque polygénétique et des antécédents familiaux, par exemple. Ce qui permettra de faire deux choses, des interventions ciblées contre les facteurs de risque, ce que vous nous avez présenté, et des interventions thérapeutiques en cas de maladie préclinique, c'est-à-dire de quasi-certitude. Donc, oui, ça c'est une petite publicité personnelle sur un excellent livre qui s'appelle « La vérité sur la maladie du siècle », publié chez Glancet, dans lequel je développe cette idée de ces cliniques du risque et dans lequel je fais le point sur la maladie d'Alzheimer. Pour terminer, voilà, si vous voulez, ce qui pourrait être l'avenir, et je propose que dans 2 ou 3 ou 4 ans, on puisse développer ça, et notamment peut-être ici. Enfin, préparons-nous. L'avenir, pour moi, ce sont des sujets, comme je vous ai dit, comme vous, comme moi, qui sont des sujets peut-être à risque, ou des sujets qui sont déjà au stade précoce, ou des sujets contrôle, qui vont participer à des cohortes. D'accord ? Ces cohortes, dans ces structures de recherche clinique dont j'ai parlé, car je pense que c'est ça l'avenir, ce sont des structures de recherche clinique, ces cohortes vont nous permettre d'établir des bases de données. À partir de ces bases de données, on va pouvoir élaborer des algorithmes de prédiction. Et à partir de ces algorithmes de prédiction, on va avoir dans nos centres de prévention du déclin cognitif, dans ces cliniques du risque dont je viens de vous parler, il y aura des sujets qui vont venir, vous, moi, voilà, très bien, qui vont vouloir avoir une évaluation de leur risque personnalisé. Donc il y a un sujet qui arrive sur la base de l'algorithme de prédiction qu'on aura établi à partir des cohortes, on va pouvoir à ce moment-là envisager des interventions ciblées, comme je vous ai dit, qui seront soit d'agir sur les facteurs de risque modifiables, s'il y a des facteurs de risque modifiables, comme vous l'avez très bien présenté, soit avec des thérapeutiques dans l'hypothèse que j'espère qu'on va démontrer que ces médicaments vont être éventuellement, enfin possiblement efficaces en retardant l'entrée dans la maladie. Voilà, vous voyez, ce que j'ai voulu et ce que je veux, ce pourquoi je milite, c'est dire que finalement la recherche et l'actualité sur la maladie d'Alzheimer, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement nouveau, c'est pas du tout sur la paillasse qu'il faut trouver la solution, c'est pas du tout ça, il faut chercher la solution chez le patient. Le patient, grâce au biomarqueur, nous donne des clés pour repérer les médicaments qui sont efficaces et pour repérer les patients qui vont être possiblement les sujets qui vont pouvoir bénéficier de ces médicaments qui sont en train d'être développés. Vous voyez, c'est extrêmement actif, c'est une vision moderne, c'est une vision qui n'était peut-être pas celle à laquelle vous êtes habitué d'entendre. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle toujours de paillasse et de protéines, de choses comme ça, pas du tout, de souris transgéniques, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est chez le patient qu'il faut trouver la solution. C'est la raison pour laquelle, moi, je me suis engagé à construire à la Salpêtrière un grand bâtiment qui va s'appeler le CERMAD, où on va pouvoir justement accueillir ces sujets normaux pour pouvoir faire ces algorithmes prédictifs à partir de centres de data science que l'on est en train de mettre en place avec l'ICM et avec la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Je vous remercie.
La force de l'enthousiasme est quand même exceptionnelle à regarder. Merci, professeur Dubois. On sent que vous êtes animé par votre expertise, votre métier, mais aussi par l'espoir. Et j'en profite pour dire que vous allez facilement trouver comment faire un don. Plusieurs personnes à la pause m'ont demandé comment faire. Vous avez sur le Kakemono là une adresse www.alzheimer-recherche.org. Depuis votre smartphone, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est très simple. Il y a un onglet don et vous pouvez même le faire mensuellement. Donc, si ce que vous venez d'entendre fait écho chez vous, bien sûr, vous pourrez participer aussi à titre individuel à ce que la recherche progresse. Grâce à vous, j'ai aussi compris que la démence, on l'a tous vécue à un moment donné de notre vie, de 0 à 10 ans à peu près, quand on n'est pas autonome, quoi, en fait. C'est intéressant, finalement, on l'a tous vécue quelque part. Ça me rassure sur ce mot qui ne me plaisait pas trop au départ, avant ces entretiens. Avez-vous des questions à poser au professeur Dubois ?
Oui, je suis peut-être hors sujet, parce que mon mari, lui, il souffre depuis 2020 d'une perte de mémoire. Donc, on a fait une ponction lombaire et les marqueurs, d'après le médecin, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas l'Alzheimer, mais c'est une maladie apparentée, c'est la maladie à corps de Lévy, qui quand même va sur l'Alzheimer, je pense.
C'est la question ?
C'est la question, à voir si ces médicaments que qu'on préconise pour la maladie d'Alzheimer pourraient agir pour lui.
Non, alors, pour la maladie à corps de Lévy est une maladie, comme vous l'avez dit, apparentée. Et l'approche que nous avons, c'est une approche spécifique. C'est-à-dire qu'à chaque lésion correspondra un traitement spécifique. Donc, il faut repérer la lésion de corps de Lévy, qui n'est pas, généralement pas, l'amyloïde. Et donc, il va falloir, dans le cas du corps de Lévy, identifier précisément la lésion pour pouvoir trouver le traitement spécifique. Bon, c'est généralement la face anucléine, donc il va falloir travailler sur la face anucléine pour pouvoir éventuellement trouver un traitement spécifique pour la maladie à corps de Lévy. Cela dit, la maladie à corps de Lévy est une maladie qui a une caractéristique un peu particulière, car c'est une maladie qui s'accompagne de fluctuations cognitives importantes, parce qu'il y a un substrat attentionnel important, et les anticholinestérasiques, ces médicaments dont on a parlé jusque-là, et notamment la rivastigmine, mais aussi la Ricept, ont un effet assez stabilisant sur les troubles cognitifs de ces patients. Donc il y a aujourd'hui des possibilités thérapeutiques pour les troubles cognitifs, et pour peu qu'il y ait un petit syndrome parkinsonien associé, on peut aussi, avec des doses filées de Modopar ou de Sinemet, avoir également un effet sur les troubles moteurs. Donc il y a quand même aujourd'hui, pour le corps de Lévy, des possibilités thérapeutiques, en sachant, en plus, et je me permets de vous le dire, que l'évolution de la manie à cordélite est une volition qui peut, dans certains cas, être tout à fait stable. Donc,
très rapidement, je voudrais savoir si les traitements que vous étudiez actuellement reprennent un peu le mode d'action de ceux qui ont été abandonnés qui ont été déremboursés.
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Pas. Si vous voulez, il y a deux. De façon générale, en médecine, vous avez deux types de médicaments. Vous avez ce qu'on appelle les médicaments symptomatiques. Je prends l'exemple de la rage de dents. Vous avez mal à la dent, on peut vous donner un antalgique. Donc on soigne le symptôme, on soigne la douleur. Et en l'occurrence, les médicaments dont vous parlez, ils essayaient d'améliorer la mémoire en appuyant sur l'accélérateur de l'acétylcholine. Bon, ça, c'est les médicaments symptomatiques. Et puis vous avez des médicaments qu'on appelle physiopathologiques, qui cherche cette fois-ci à soigner la cause. Et si je fais référence au mal de dent, c'est par exemple d'arracher la dent ou de traiter la carie. Vous voyez, on traite soit la cause, soit le symptôme, la douleur. Eh bien, c'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer. Ces médicaments-là, ce ne sont pas des médicaments symptomatiques, ce sont des médicaments physiopathologiques qui cherchent à soigner les lésions et non pas les symptômes.
Oui, c'est vraiment deux choses très différentes.
Même si les symptômes sont la conséquence des lésions.
Merci, professeur Dubois, pour toutes ces précisions qui nous permettent d'avancer sur le sujet.